L'émission jazz d'Aligre FM.
Tous les samedis à 17h.
Sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Bonjour, bienvenue sur Aligre FM dans l'émission Jazzland. Je vais vous présenter mes deux invités et j'ai le grand plaisir d'avoir deux batteurs, leaders, compositeurs. Et je suis très heureux de vous les présenter. Alors tout d'abord, Édouard Perrault, bonjour, bienvenue à Jazzland.
Bonjour Lionel, merci pour cette invitation.
Voilà, donc vous avez sorti au mois de décembre dernier un album très beau que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle « De l'ombre à l'aube ». Et on va parler de lumière, bien sûr, parce qu'il est question de lumière dans ce disque. C'est sur Label Bleu, qui est le label qui vous suit depuis un petit moment.
Ah oui.
Et oui, et il faut les citer parce que c'est important d'avoir des labels comme ça. Qui,
ouais, totalement. Hein,
mais oui. Ouais. Et alors, mon deuxième invité, c'est Élie Martin-Charrière. Bonjour Élie, bienvenue à Jazzland.
Bonjour Lionel, merci beaucoup.
Alors vous, votre album, il s'appelle ERA hashtag P.
Oui, alors, qu'il ne se prononce pas comme ça, mais qui est simplement Irapi.
On enlève le hashtag, mais il est là pourtant.
Il est là et il est partout, mais c'est juste un hommage à tous les potentiels possibles de paix.
Oui, bon, on va en parler plus précisément. C'est sur le label Caisson.
Oui.
D'accord, et c'est, lui aussi, il est sorti au mois de décembre, voilà. Ils sont sortis quasiment à une semaine près, tous les deux albums au mois de décembre. Eh bien, écoutez, avant qu'on démarre et qu'on parle précisément de vos deux disques, moi, je voudrais rendre un hommage à un grand musicien, saxophoniste ténor qui nous a quittés cette semaine et avec qui j'étais lié, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble. Vous savez, je fais des conférences et il a beaucoup participé à nos conférences avec Jacques Vidal au Sunside, les fameux concerts thématiques du dimanche. Mais il s'appelle Éric Barret, c'était un saxophoniste ténor absolument remarquable. Et avec lui, on a fait John Coltrane, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Benny Golson, tous les grands, et il jouait magnifiquement bien. Et c'était une personne humaine formidable et un très très grand pédagogue, puisqu'il avait mis un petit peu sa carrière de côté pour se consacrer à la pédagogie. Mais enfin, il avait quand même sorti un disque l'année dernière en trio.
On a une grande pensée, ouais,
pour lui. Voilà, alors je voudrais passer un petit morceau en hommage à Éric Barret. Donc on démarre tout de suite. Ça s'appelle Aldébaran et il y a...
We'll be right back.
Voilà, c'était Aldébaran ou Aldébaran, je ne sais pas comment ça se prononce. C'était une composition d'Éric Barret. On était en 1988. Il était accompagné d'Henri Texier à la contrebasse et Aldo Romano à la batterie, excusez du peu. Hein. Et c'était un trio, c'était lui le leader de ce trio. Il avait pris deux grandes figures. Et c'était avant que le trio avec Luis Clavis existe. On est en 1988. Voilà, une grande pensée pour Éric Barret, pour sa famille. Il est mort d'un accident. Hein. Il est tombé en montagne, une chute mortelle. C'est vraiment un truc vraiment idiot, mais c'est, ça arrive dans la vie, une disparition tragique. Il avait 65 ans. Voilà, je voulais juste, je crois qu'Edouard, tu voulais dire deux mots sur Eric.
Oui, moi je suis touché parce que c'est depuis mon adolescence, j'ai écouté sa musique, j'ai joué avec des gens qui ont joué avec lui, qui ont apprécié son charisme du saxophone et sa lumière, j'allais dire aussi. Hein. Là, ce qu'on entend, voilà, il y a une passion, il y a une puissance, il y a une voix. Voilà, et voilà, moi, j'ai été très touché aussi d'apprendre cette triste nouvelle. Je ne savais pas que c'était un accident.
Merci voilà, beaucoup de ton témoignage.
Ouais, un grand soleil pour lui et tous ses proches.
Merci beaucoup. Élie, je ne te fais pas réagir parce que tu ne l'as pas connu, mais évidemment, tu en as entendu parler.
J'en ai entendu parler et je me suis renseigné depuis.
Oui.
Mais j'écouterai ce disque avec grand plaisir.
Ouais, puis
et
tous les autres, oui, parce qu'il avait dans les années 80, il avait un quartet formidable avec Marc Ducret et Hélène Labarrière. C'était vraiment formidable. Okay. Alors, cher Élie Martin Charrière, on va revenir à votre album donc, qu'on appelle Erapi, du coup. Alors, ouais. Mais à l'anglaise, alors. Hein.
Ça a été formé à l'anglaise, mais... On l'appelle comme on le peut.
Alors en fait, on va révéler tout de suite, parce que ça paraît un peu bizarre, hein, parce qu'en fait, à vos tout débuts, il y a très longtemps, vous aviez composé un morceau, il y a presque 10 ans, qui s'appelait Erapi's Dream. C'est ça, hein, Erapi's Dream, et c'était l'anagramme de Dre Palmertz, en inversant les lettres. Donc ça faisait Erapi's Dream, donc vous avez voulu garder ça. Donc il y a cette figure emblématique de Dre Palmertz qui a été un peu votre professeur et on peut dire votre guide spirituel, on peut dire ça.
On peut carrément le dire, ça l'est toujours maintenant.
Mais il a écrit un très beau texte d'ailleurs vous et sur votre disque. Hein. Ouais. Donc pourquoi lui rendre hommage? Alors c'est votre premier album sous votre nom. Hein. Vous aviez fait un hippie avant, c'est ça?
J'avais fait un EP de réaction à la fin 2020, qui avait été une année, je pense, assez traumatique dans ma vie et dans beaucoup d'autres. Sortie de Covid, tout ça.
Oui, bien sûr.
Trump, beaucoup. Enfin, première version. Et j'avais sorti de la musique. Ensuite, j'avais sorti un album confinement où, quand on n'attendait qu'une chose, c'était de jouer. J'avais enregistré, en fait, avec toute une équipe de folie de ma génération. Mais j'avais pas joué le jeu comme là, je l'ai joué avec cet album-là. Vraiment le présenter, le défendre, le jouer en concert.
Absolument. Alors il y a une narration, hein. Il y a vraiment. D'abord, puisque vous parlez des concerts, hein, le 24 mars au Duc des Lombards.
Oui.
J'encourage tous les auditeurs et les auditrices d'Aligre FM à venir parce qu'en plus c'est entrée libre.
C'est entrée libre.
Voilà, ouais. Puisque c'est les concerts de la nouvelle scène du Duc des Lombards. Il y a 3 sets, un à 19h30. Un à 21h et un à 22h30, si je ne me trompe pas.
Exactement, c'est ça.
Et donc, 3 occasions de voir Élie Martin Charrière en concert.
Ouais, et puis toute cette super équipe avec laquelle j'ai la chance de jouer. Je ne sais pas si tu vas les présenter ou si tu veux que je te le fasse.
Mais vas-y.
Donc, il y a Nina Gatt qui est au piano, au Fender Rhodes et à certains autres claviers sur l'album. Christelle Raquillet à la flûte et flûte en sol aussi sur l'album, mais. On a gardé que la flûte avec des effets pour le live et Elvin Bironien à la basse électrique.
Voilà, donc c'est un quartet. Alors, pourquoi mettre la flûte en frontline? C'est parce que vous aviez envie de jouer avec Christelle ou parce que vous aviez envie de la flûte?
Les deux.
C'est une bonne réponse.
En fait, Christelle, sur le premier EP que j'avais sorti en 2020, on avait déjà enregistré de la musique ensemble.
D'accord.
On s'est rencontrés au conservatoire, au CNSM.
Vous allez de votre génération, hein,
Oui.
Peut-être un peu plus jeune, je sais pas.
C'est ça, ouais. Elle est à peine plus jeune, mais on s'est croisés là-bas. Elle est trop forte en musique, c'est une humaine incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que la flûte est un des instruments enfin tous mes morceaux préférés finalement, parfois je me rends compte qu'il y a carrément de la flûte dessus,
que ce soit d'accord.
Dans la musique d'Herbie Hancock, certains morceaux de Prince où en fait je me rends compte qu'il y a de la flûte par derrière, plein de musique en fait, et c'est un instrument que ma sœur jouait d'ailleurs quand elle était toute petite.
Ah bah voilà, il y a des liens.
Et la flûte fait partie d'un instrument qui pour moi chante à une hauteur où on peut vraiment l'entendre, percevoir. C'est un chant super puissant, et enfin Christelle a une vélocité, une musicalité.
Elle est formidable,
incroyable.
C'est intéressant par rapport à la batterie, parce que c'est un petit peu à l'opposé, et souvent à l'époque du jazz où ça jouait quand même très 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 fort, très bebop, très swing, les flûtistes ils avaient beaucoup de problèmes avec les batteurs, parce qu'ils trouvaient toujours que les batteurs jouaient trop fort, ils s'entendaient pas. Mais alors aujourd'hui les choses sont différentes, la technologie a changé, et il y a beaucoup de liens entre la flûte et la batterie. Je trouve ça passionnant, parce que du coup là il y a un instrument qui est dans les racines du sol et l'autre qui monte vers le ciel. Et ça, c'est très intéressant, du coup.
Bien sûr.
Et peut-être aussi, ces deux
instruments.
Enfin, je rebondis comme ça. Ce sont deux instruments qui sont presque à l'origine de l'organologie des instruments depuis la préhistoire. Hein, la percussion et la flûte, l'os percé.
Le roseau.
Voilà. C'est les plus vieux instruments du monde, quasiment.
C'est très intéressant.
Avec la voix,
exactement.
Bien sûr.
Très intéressant. Bon, on va écouter tout de suite un extrait. Pour démarrer, j'ai choisi une reprise de Charlie Parker qui est assez étonnante. Qui est assez étonnante. Vous allez voir, il s'agit d'Anthropologie.
Thank you.
J'aurais tant aimé que Charlie Parker puisse entendre cette version d'Anthropologie parce qu'elle est tout à fait étonnante déjà de la jouer à la flûte. Et puis il y a un groove là, il y a un groove basse, batterie, clavier. Il y a un vrai son de groupe, il y a quelque chose. Alors on va peut-être développer sur cet aspect, cher Élie.
Avec grand plaisir. Je vais vous donner peut-être les clés de ce morceau. Il y a un signal de basse qui nous remet en place à chaque fois qu'il intervient. Et sinon, autour, c'est juste nous qui jouons en nous rebondissant les uns les unes sur les autres, en se servant de ce qui est joué, de ce qui n'est pas joué, de citer le thème, de se balader autour, et avec des rôles définis. C'est vrai que la basse nous sert de moteur discret mais permanent. Et on gravite autour.
Oui, c'est ça, hein. Il y a vraiment une gravitation, c'est exactement ce qu'on ressent à l'écoute. Hein.
Voilà.
Et pourquoi ce morceau de Charlie Parker ? Il y a une raison particulière ou...
Alors, la seule raison, c'est que en fait, j'avais ce signal de basse en tête et qu'il fallait que je lui mette une idée derrière. Mm-hmm. Et qu'à un moment, j'ai trouvé Anthropologie.
Le thème est venu tout seul, quoi. Ouais.
Le thème est venu à force de cogiter et d'essayer de trouver un thème. Là, je suis en train d'en mettre un autre derrière, mais
ouais,
surprise
d'accord.
Pour plus tard. Et voilà, une version tronquée. On cite pas la fin du thème, on cite pas le B. C'est pas.
Mais non, mais
c'est une
ça
idée qu'a... d'anthropologie.
Mais oui, voilà. Mais c'est ça. Mais c'est comme ça qu'il faut faire des covers, des reprises. Si c'est pour les jeux à l'identique, ça n'a aucun intérêt.
Ce n'est pas le mien, en tout cas.
Alors, ça m'a vraiment intéressé de vous inviter ensemble, parce que, bon, vous pratiquez le même instrument, vous êtes tous les deux devenus leader et compositeur, mais dans vos deux projets, il y a une idée imaginaire, enfin, il y a un univers imaginaire très fort et très poétique, je tiens à le signaler, c'est important, mais aussi une portée philosophique, humaniste, politique, même, j'ai envie de dire. Enfin, en tous les cas, chez vous, c'est très clair, Élie. Voilà, sur la force des peuples, sur la protection de notre planète. Et là, bon, vous avez fait cet enregistrement avant que Trump soit élu, mais alors là, ça devient de plus en plus urgent, ce cri d'alarme.
Oui, c'est urgent qu'il soit, je ne sais pas, qu'il soit présent encore plus, mais à la fois, je ne saurais pas m'exprimer sur le sujet, c'est encore... C'est beaucoup trop incompréhensible pour moi. Mais après, à nous de faire à tous ce qu'on peut pour prôner autre chose. L'amour, déjà, et tout ce qui s'ensuit. Après, on verra avec Trump, mais c'est vrai qu'il est là, il est beaucoup là.
Ouais. Mais vous avez une grande humanité, vous êtes un humaniste, on peut dire ça. Vous croyez en l'homme, donc il y a de l'espoir.
Oui, je pense.
Mais c'est important de le dire.
Ouais.
Et la musique, alors, elle sert à quoi par rapport à cette vision de la société ? C'est une clé ? C'est un outil ?
La musique, je pense, c'est un outil, ça, c'est clair. Et puis, moi, ma manière d'aborder les concerts, c'est de savoir qui est en train d'écouter, qui est dans la salle, parce qu'on joue pour ces personnes-là, on joue aussi pour nous. Kiffer ce qu'on est en train de faire et aller plus loin dans notre musique. Sauf qu'en fait, si les gens ne reçoivent pas ce qu'on leur donne, ou alors que nous, on ne reçoit pas ce que eux ressentent, on ne fait pas le concert tous ensemble. Et c'est des moments où, en fait...
Une communion,
exactement.
Oui.
C'est des moments de communion où, en fait, si chacun rentre chez soi, ou que nous, on part se coucher en ayant passé un moment incroyable avec des gens, c'est déjà mieux que de ne pas l'avoir fait pour tout le monde.
Bien sûr, très bien. On va écouter un deuxième extrait qui est le titre éponyme de l'album, donc R.A.P.2. Alors, il y a une pensée pour Dre Palmer, qui est quelqu'un de formidable. Moi, j'aime beaucoup ce batteur et je ne savais pas au départ qu'il était lié comme ça à ce projet, quelque part. Et c'est ce guide spirituel formidable.
Ouais.
Alors, on écoute R.A.P.2.
Thank you.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Oui, alors on vient d'écouter RAP2. Je veux toujours mettre le hashtag. Ouais. Bon, alors on le met pas. Ou on le met, comme on veut, après tout. C'est le titre éponyme de l'album d'Eddie Martin Charrière, où il y avait cette belle flûte en avant. Et puis, s'il y a une ambiance, il y a une atmosphère, j'aurais voulu l'avis d'Edouard Perrault sur ce qu'on vient d'entendre. Hein.
Ah ben oui, là, ça joue, comme on dit. Non, c'est marrant. Je pensais à un rapport basse-batterie. Je demandais si tu avais écouté Christian Vander et Bernard Paganotti.
J'ai écouté un album de Magma.
Ouais.
Mais
lequel ?
Alors, c'est une pochette avec le logo sur fond rouge. Mais
ah oui, ça c'est un des premiers. Ouais.
C'est ouais, Code Tarkos.
Mais c'est pas avec Paganotti, je crois pas.
Je pense que c'est vraiment vieux.
Enfin, ouais, c'est vieux. Ouais.
Tarkos,
non, Paganotti. Parce que ça me fait penser en fait au côté à la fois aérien de la batterie, les cymbales, etc. Le côté très ancré du bassiste, très terrien. Il y a un caractère de presque, j'allais dire, d'entrain. Assez engagé, que j'aime beaucoup dans le côté jazz rock acoustique. Hein, tu vois, il y a un petit côté jazz rock, mais dans le très bon sens du terme, hein, noble.
Mais c'est très hérité de Tony Williams, en fait. Donc après. Ouais.
Bah voilà, Tony, c'est
Vander Magma à cette époque-là.
Bah oui, bah oui.
Ça, carrément, ouais. Je peux voir.
Bah oui, oui.
Ça, c'est les batteurs qui ont compté pour vous, Élie.
Moi, j'ai pas grandi avec de la musique populaire. Ce que j'écoutais quand j'avais 5-6 ans, c'était les albums du Lifetime de Tony Williams.
À 5-6 ans, bravo.
Oh, oui, oui, bah, Stevie Wonder, c'était ce que j'écoutais pour. Comme je savais plus quoi écouter, j'écoutais ça parce que je suis fan de toujours et pour toujours de Stevie Wonder,
ah bah oui,
toute sa vie.
Vous avez bien raison.
Et sinon, c'était le quintet de Miles, Tony Williams. Et...
Mais c'est vos parents qui écoutaient ça?
Oui, mon père est contrebassiste et était prof d'histoire du jazz aussi.
Ah oui, d'accord. Ouais, bah c'est génial de grandir comme ça. C'est pas mal. Hein, ouais. C'est une chance. Alors, j'ai lu là, dans le communiqué de presse que vous êtes un grand fan de Prince. Et alors, le rapport entre la musique de... Vous parliez de Stevie Wonder. Bon, bah, Prince, c'est la génération d'après. Hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire, alors, par rapport à ce projet et votre amour de Prince?
Alors, on peut dire que ce projet sonne de moins en moins comme un potentiel hommage à Prince. C'est simplement qu'il y avait... En fait, le
mais il y a ça, ça.
À la base, il y avait un morceau qui était carrément un hommage à Purple Rain. Ça m'aime rien que d'en parler, mais c'est quelqu'un que j'écoutais tous les jours à une certaine période et depuis sa mort beaucoup plus. C'est quelqu'un qui, pour moi, a été très incompris, mais parce qu'il n'avait pas la place de s'exprimer au volume où il fallait qu'il s'exprime. Ses tournées, c'était n'importe quoi. C'était 3 concerts par jour, les afters. Enfin,
les afters new morning à 2h du mat.
C'est quelqu'un qui a une intensité, une musicalité. Il fait une note sur une guitare. C'est parti, il fait une note quand il chante, à la batterie, n'importe où.
Ouais,
les textes, c'est quelqu'un qui a développé 1000 manières de chanter. Et il y avait un morceau qui était clairement un hommage à Prince. Et à un moment, il faut écrire des textes sur sa musique. Alors bon, bah, ça s'est retrouvé ici. Ça ne l'est plus forcément, ça l'est toujours un petit peu. Donc c'est pas très prononcé, c'est pas... très important, mais c'est un hommage à la musique de toute
alors,
façon.
Alors, dans cet album, il y a un autre hommage à un grand auteur-compositeur, c'est Sting, avec cette chanson Fragile, qui est une chanson que j'adore, et votre version est très très belle. Alors, pourquoi ce morceau?
Eh bien, pareil, c'est un disque que j'ai beaucoup écouté, Nothing Like the Sun.
Yes, ouais.
Et cette chanson... est vraiment vraiment très belle et j'ai toujours eu envie de faire des reprises un petit peu décalées comme le Anthropology dans un autre modèle et pareil c'est des choses c'est des claves toutes différentes les unes des autres mais qui doivent juste faire comme si ça coulait de source que c'était une version normale juste on comprend pas comment ça tourne mais c'est agréable à écouter.
Bon, on va l'écouter justement et une version donc instrumentale de cette chanson Fragile, c'est parti. Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, on vient d'écouter Fragile, la version de Fragile par Élie Martin Charrière et son quartet. On peut reciter les musiciens, Élie. Allez, surtout cette flûtiste extraordinaire.
Cette extraordinaire Christelle Raquillet à la flûte, aux flûtes. L'extraordinaire Nina Gatt au piano sur ce morceau et aux Rhodes et aux autres claviers. Et l'extraordinaire Elvin Bironien à la basse. Il y a aussi deux extraordinaires chanteuse sur la dernière piste de l'album.
Oui, et vous chantez aussi d'ailleurs.
Moi aussi,
mais oui,
c'est vrai.
Mais c'est bien.
Je chante beaucoup plus en public aussi, et c'est ouais, assez incroyable. Je ne pensais jamais le faire autant.
Ouais. Bah, c'est le nouveau Robert Wyatt ou Christian Vander. Bon, écoutez, merci beaucoup Élie. De toute façon, le micro est ouvert. On va passer à l'album d'Edouard Perrault, De l'ombre à l'aube. D'abord, très beau titre. Il y a toujours des très beaux titres, très poétiques dans les disques d'Edouard. Mmh. Alors, c'est une... Il y a un triptyque. C'est le troisième volet d'un triptyque. Hein. Alors, il y en a eu un sur l'espace, il y en a un sur le temps, et celui-là, c'est sur la lumière, on peut dire ça comme ça.
Mais c'est exactement ça. On dirait même les espaces, puisque c'était espace au pluriel.
Oui.
Hein, espace mental, acoustique, et puis espace géographique. Mais c'est tout à fait ça, cher Lionel.
Alors pourquoi ce triptyque sur des choses comme ça qui sont quand même très fortes? Parce que toute notre vie est régie par ces trois concepts quand même. Hein.
Alors peut-être c'est une façon de réimaginer le monde à travers la musique.
Ah voilà, ça c'est une phrase qui me plaît.
Mais qu'est-ce qu'on est là? Nous, on est un peu sur cette petite planète qui tourne sur elle-même, qui tourne autour du Soleil. On a un peu compris quelques trucs depuis quelques siècles. Et bon, qui sont remis en cause hein, de temps en temps. Quand même,
oui, ça arrive, ouais.
Par des gens qui ont l'esprit est plat, j'allais dire. Voilà, non, il y a tellement de... La musique est une façon de réinventer le monde et de se réinventer, puis de découvrir. Et puis, voilà, le poète dit « le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Alors, nous, on apprend à vivre et puis il n'est pas trop tard.
Non, ce qui m'a intéressé dans votre concept, c'est que alors, l'espace et le temps. Alors, évidemment, là, on est vraiment au cœur de la musique. Hein. On est au cœur du cinéma aussi. On est au cœur de beaucoup d'art, d'ailleurs, qui gère l'espace et le temps. Mais la lumière, c'est quelque chose qu'on n'identifie pas toujours à la musique. Donc, je voudrais qu'on explore cet aspect-là.
Ben, la lumière, ouais. C'est ce spectre... ce cycle de la nuit, du jour, hein, qui a animé beaucoup de poètes, hein, dont c'est vrai que je suis parti aussi sur la lecture d'Hugo aussi, qui est une idée très romantique de l'ombre et de l'aube. Voilà, c'est ce cycle qui nous façonne hein, à travers la journée et puis la nuit. C'est déjà un rythme, on va dire, qui est assez lent, mais moi, en tant que... récepteur de toutes ces idées, voilà, je trouve que c'est un rythme qui m'intéresse. Et cette ombre qui n'existe que par le fait de la lumière, voilà, c'est la lumière, elle a besoin d'un espace pour émettre. C'est un peu à l'idée du son aussi qui a besoin d'un espace pour s'étendre. Il y a toute une façon de penser, c'est très intérieur, c'est très philosophique, mais à la fois, c'est très simple. Je voulais quelque chose de simple et même musicalement, quelque chose d'assez simple.
Oui, c'est très dépouillé.
Voilà,
là, il y a de l'espace hein, dans votre musique.
Absolument,
toujours.
Ouais.
Et ce trio magnifique, on va citer les musiciens
quand
même.
Il y a Bruno Angelini au piano et Arnaud Cuisinier à la contrebasse qui sont vraiment des frères de son.
Et ça fait longtemps qu'il existe là. Vous avez créé vraiment un son aussi à vous trois là. Et il y a une vraie une entente musicale et j'ai envie de dire spirituelle aussi.
Ouais, hein. Absolument. Ouais. Ça va même au-delà. Je trouve qu'il y a une façon de partager ce petit segment de vie qu'on a sur cette terre ensemble. Et on passe beaucoup de temps à parler, à échanger.
Il faut dire que c'est des gens formidables, je les connais personnellement.
Mais voilà. Oui, qui sont presque victimes de leur humilité aussi, hein,
ouais,
j'allais
oui.
dire. Parce qu'on est dans une époque de faire savoir et pas trop de savoir-faire. Et je pense que ces gens-là sont plutôt du côté du savoir-faire.
Et alors donc, il faut le dire aussi, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, vous êtes photographe également, et du coup, la lumière, évidemment, ça vous parle, puisque vous avez une activité de photographe importante, on peut le dire.
Oui, oui, j'ai fait de plus en plus d'expositions dans des scènes nationales, et puis c'est une façon pour moi d'écrire un petit peu mon carnet de voyageurs. On est des nomades modernes avec Ellie. Et j'espère que ça durera encore longtemps. Nos cymbales sur le dos et puis nos baguettes en tête. Et voilà, donc c'est une façon pour moi d'écrire un peu ma vie avec la lumière. Photographier, c'est écrire avec la lumière.
Et vous avez évoqué tout à l'heure Victor Hugo. Et donc, vous avez fait un voyage à Guernesey, vous avez visité sa maison et ça a été une véritable révélation pour vous ?
Absolument. Voilà, je remercie Patricia ici présente, Patricia Lefebvre, mon amie, ma compagne, qui habite en face de Guernesey.
Ah d'accord. Hein,
voilà, dans le Cotentin, très très belle région, et ça nous titillait d'aller voir de plus près cette maison extraordinaire en soi aussi. Hein. Moi, j'ai été bouleversé par les dessins de Victor Hugo aussi déjà. Je pense que s'il n'avait pas écrit une ligne, pour moi, il serait déjà un génie à travers ses dessins et une espèce de mise en abîme de tout sur une petite tache comme ça d'encre. Voilà. D'ailleurs, il a fait de la photo aussi avec son fils. Mais voilà, et j'ai été bouleversé, c'est vrai, par son œuvre, hein, qui est un peu intarissable, et un Everest à gravir dans nos vies de lecteurs. Mais je dirais que ça m'a inspiré ce titre, et puis cette envie de passer dans la vie, on a beaucoup de moments un peu sombres, j'allais dire, parce que la vie ne nous réserve pas que des cadeaux magnifique, et c'est peut-être aussi une façon de transformer un mal pour un bien. Et voilà, donc c'était une façon cathartique un peu pour moi de faire jaillir de l'ombre la lumière. Et je crois que, puisqu'on reprend la dernière phrase de Victor Hugo sur son lit de mort, où il aurait dit... c'est le combat
du jour et de la nuit.
Voilà.
Ouais. Bah oui,
ici s'achève le combat du jour et de la nuit.
On va écouter tout de suite un exemple de ce très beau disque. J'ai choisi le morceau Murmuration.
sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
On vient d'entendre Murmuration d'Edouard Perrault, tiré de l'album De l'ombre à l'aube. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau en particulier ?
Eh bien, Murmuration, en fait, c'est une sorte de, aussi, on va dire, d'idées d'oiseaux, de bandes d'oiseaux qui circulent ensemble, vous savez, ces bandes poissons, voilà. Et en fait, j'avais l'impression de nous sentir tous les trois à l'affût, comme ça, comme si on était connectés comme des oiseaux. Et en fait, ces bandes-là, ça s'appelle une murmuration.
D'accord, ok.
Voilà, oui. Et en fait, c'est tiré aussi d'une suite d'accords qui m'a inspiré beaucoup ces derniers temps d'Anton Scriabine.
Ah bah oui, ça.
Voilà, Scriabine, c'est une murmuration.
Alors sinon, dans le communiqué de presse, vous parlez des trous noirs et donc de cette façon de penser autrement le déroulement du temps. Et oui. Vous citez Einstein. Alors il y a une très belle phrase d'Einstein, je vous laisse la citer parce qu'elle est formidable.
Ça n'est pas le temps qui passe, mais bien nous qui passons dans le temps.
Ouais, ça c'est quand même...
c'est exactement ça. Ça rend le temps presque géographique, c'est-à-dire... c'est presque un lieu.
Vous parlez d'un tunnel immobile.
Voilà.
Et là, imaginez le temps comme un tunnel immobile. D'un seul coup, on passe dans une autre dimension.
Mais oui.
Et donc, par rapport à la création musicale, c'est très intéressant. Là.
Alors voilà, donc c'est tout à fait. Donc il y a un morceau dans sa forme, dans sa structure
qui
même.
Qui s'appelle Au cœur. Hein.
Voilà. Ouais. Au cœur d'un trou noir, le temps est infini.
Alors, j'ai choisi plutôt un autre morceau, mais bien qu'au cœur soit passionnant. Alors, il y a des contrastes, il y a des...
Et bon, ça reste voilà, fiche, exactement,
c'est
Lionel,
très, très étonnant comme morceau. Mais j'ai choisi Clair-obscur, qui était plus dans la thématique de la lumière, du coup. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire avant de l'écouter ?
Mais Clair-obscur, c'est un morceau que je ne comptais pas du tout jouer comme ça, au départ. Voilà, je pensais que c'était une balade, mais de fil en aiguille, vous savez, ce qui nous tombe dessus dans l'inspiration, comment on va l'arranger, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Voilà. Et en fait, il faut être à l'écoute aussi de la musique qui nous vient et comment on va la mettre en scène.
Thank you.
Eh bien, c'était le clair obscur, cher au musicien photographe Édouard Perrault, tiré de son album De l'ombre à l'aube. Et j'aurais aimé avoir l'avis d'Élie Martin Charrière sur le travail d'Édouard.
Alors, il m'a briefé pendant qu'on écoutait, donc non, je plaisante. Je lui disais que quand j'ai écouté son album il y a quelques jours, justement pour découvrir plus en profondeur. Je t'avais déjà vu une fois jouer, mais j'avais jamais entendu ta musique. Et en fait, je travaillais, des idées à ce moment-là. J'avais mon cahier, j'étais dehors au soleil, je notais des choses. Et en fait, c'est le morceau qui m'a fait fermer mon cahier, juste parce que je me rendais compte que peut-être j'avais écouté le reste en étant très pensif, penseur plutôt. Mmh. Et que là, ça me mettait face à quelque chose de très évident, de notes qui vont retomber là, de tensions, de détentes qui vont être ici, qui sont évidentes mais qui font du bien. Et ça me, enfin, j'ai adoré l'écouter et là le réécouter, parce que tu dis que c'est le morceau qui est au milieu de ton album. Ça sonne en effet comme une bascule, parce qu'il peut, il y a plein de choses qui se sont passées avant, plein de choses qui se passeront après. Ça, c'est quelque chose qui existe et qui, du coup, ne devait pas sonner comme ça, tu disais au départ.
Ouais, c'est un petit arrêt au stand, quoi, j'allais dire. Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus... Voilà, ça groove, voilà, on est dans un truc un peu plus... cool.
Oui,
dire,
mais c'est vrai que pour la radio, j'ai choisi des morceaux.
Bien sûr. Mais moi, attends. Pour moi,
le temps presse, mes chers amis, et on va écouter un dernier morceau qui s'appelle Exil. Enfin, juste un extrait, juste deux mots sur ce morceau qui ouvre l'album d'ailleurs.
Exil, c'est un peu l'exil de toute voix qui se trouve quand elle s'ouvre, elle se retrouve peut-être bannie. Voilà. Et c'est le cas sur cette île de Guernesey. Hein. Victor Hugo a été en exil quand même pendant 20 ans. C'est là où il a écrit tous ses chefs-d'œuvre. Voilà. Et puis exil, dans l'étymologie, c'est hors sol. Et hors sol, c'est un morceau qui fait partie de mon deuxième opus qui s'appelle Hors temps.
Très bien, c'est parti. Exil. Voilà, on est obligé de chanter ce clair obscur, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Edouard Perrault et Élie Martin-Cherrière, un grand merci à vous. Merci à Séphraïm pour la technique et à Madeleine et Salomon pour le générique et les jingles. Je vous retrouverai dans 15 jours à ce micro, mais la semaine prochaine, vous retrouverez mon ami Jean-Marc Gélin qui fera une émission spéciale sur les prix de l'Académie du Jazz.